Juliette Rangeval.
Bonjour, la croissance montre des signes d'essoufflement en Europe de l'Ouest à des degrés divers. Pas facile du coup pour les jeunes de faire leur entrée dans le monde du travail. Alors parfois, pour décrocher l'emploi de ses rêves, il faut passer par l'expatriation dans un autre pays européen. En Pologne, il y a plus de 6500 ressortissants français d'après les dernières statistiques des consulats. Et c'est un chiffre certainement sous-estimé. De nombreux expatriés ne s'inscrivent pas auprès de l'ambassade. Parmi eux, des jeunes qui s'installent dans les grandes villes comme Varsovie, Cracovie ou Wrocław, attirés par le dynamisme économique du pays. Croissance ininterrompue depuis 1992, elle était de plus de 5% l'an dernier, chômage en baisse à 6% en février dernier, et un environnement très favorable à la création d'entreprises, plus qu'en France. Thomas Giraudeau est allé à la rencontre de quelques expatriés à Varsovie.
Un incubateur de start-up en plein centre de Varsovie. C'est ici qu'Adam reçoit ses clients. À 28 ans, il vient de créer sa société, aide des entreprises françaises ou polonaises à se développer dans l'un ou l'autre des deux pays. Adam parle polonais, il s'est expatrié par choix, un peu contraint aussi, il ne trouvait pas de travail en France.
J'ai une licence en école de commerce, un master en transport et logistique, un deuxième master en stratégie et commerce à l'international. Donc j'ai accumulé en tout 6 ans d'études. Donc je postulais à plus de 60 d'offres. On me disait finalement qu'ils préféraient retenir un profil avec plus d'expérience, plus âgé. Aussi, j'ai décroché aucun contrat.
Finalement, il est embauché par une multinationale française, mais dans ses bureaux de Varsovie.
C'est vraiment génial en termes d'emploi. En fait, la Pologne propose aux jeunes d'occuper des postes de cadre. Des grandes entreprises multinationales, on peut accéder à ces postes-là beaucoup plus facilement qu'en France. Ici, j'ai rencontré des gens qui me disaient que c'est les entreprises qui les démarchaient directement en France, en fait, via les réseaux, leur proposer des postes à Varsovie ou dans d'autres villes.
Comme Adam, Cyrielle Tchejewska a eu une expérience dans le privé en Pologne durant ses études de sciences politiques. Elle part un an au Danemark et rencontre son futur mari, polonais. Intéressée par le pays, elle travaille à l'ambassade de France pendant 7 ans avant de rejoindre Carrefour, le géant des supermarchés français également très puissant en Pologne. Elle découvre une culture de travail bien différente.
Nous, on a culture du déjeuner. Dans une entreprise en Pologne, il n'y a pas de possibilité d'aller déjeuner entre collègues, d'avoir un déjeuner de travail avec son supérieur. Et en général, les gens, les Polonais, mangent seuls. En Pologne, dans le milieu corporatif, hein, voilà, les gens arrivent au travail, ils arrivent à l'heure, ils repartent à l'heure et c'est tout et c'est fini. Il n'y a pas de relation entre collègues en dehors du travail. Ça m'a manqué en fait.
Après un an et demi difficile dans l'entreprise, elle fonde sa propre agence de communication et relations publiques.
J'aurais pas eu cette idée en France, ça c'est sûr. Pas vraiment d'un point de vue, est-ce que c'est plus facile administrativement, est-ce qu'il y a des aides, mais je pense que ce qui fait vraiment encore la différence, et ça on le sent, c'est que voilà, le marché est jeune, il est dynamique, le rêve entrepreneurial et le fait de pouvoir monter sa boîte, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très imprégné dans la culture polonaise et qui est vraiment très valorisé.
Ce climat favorable, Nicolas Jerzyk l'a senti dès ses études de commerce à Łódź, au centre de la Pologne. Pour à peine 2 200 € contre au moins 15 000 en France, il se forme et lance en parallèle une plateforme d'offres de travail en Pologne pour les étrangers. Mais une fois le poste décroché, ces derniers ont du mal à trouver un logement. Alors Nicolas lance un autre site immobilier de vente et de location aux expatriés.
Je vois pas l'intérêt pour nous, pour moi-même, de créer une entreprise en France. Il faut embaucher un comptable pour qu'il puisse gérer complètement les taxes. C'est difficile de comprendre en fonction des régimes. De manière générale, tout est fait pour freiner les gens, j'ai l'impression. Tandis qu'en Pologne, voilà, c'est beaucoup plus simplifié. Au niveau paperasse, on va passer 2 heures par mois dessus, maximum. On va se concentrer sur le business, sur les rendez-vous, sur le business.
Les plateformes de Nicolas tournent bien. 12 personnes associées, commerciaux, travaillent aujourd'hui avec lui.
Au niveau des constructions immobilières, il y a plein de projets en cours. Sur Varsovie, en 2021, il y aura 11 nouveaux gratte-ciel. Il y aura aussi le plus grand gratte-ciel au niveau de l'Europe. Il faut savoir que récemment, il y a JP Morgan qui s'est installé, Goldman Sachs, il y a beaucoup d'entreprises, des multinationales qui viennent ici. Non, il y a un dynamisme économique très très fort et les gens vont dans le sens là en fait.
À l'Institut des Affaires Publiques, Katarzyna Renault a mené une étude en rencontrant 15 Français installés en Pologne depuis l'entrée du pays dans l'Union européenne en 2004. Ce sont souvent des hommes très diplômés qui ont rencontré une Polonaise et ont décidé de s'installer ici. Meilleures opportunités de travail, croissance économique, peu de chômage, mais pas que.
La plupart vivent à Varsovie, trouvant leur nouvelle ville assez calme. C'est une capitale, mais elle n'est pas si stressante, pas très grande comme Paris ou Londres. Et en même temps, ça donne beaucoup de possibilités. Offre culturelle, elle est grande. Ils se sentent plus en sécurité ici, qu'il y a moins, par exemple, de danger de se promener le soir dans la rue. Les femmes disaient qu'il y a des régions ou des endroits en France où les femmes ne se sentent pas en sécurité et qu'elles n'ont pas cette sensation ici.
Merci. Merci. Bonne journée.
Mais certains Français rencontrés par Katagena Renault sont inquiets de la montée de discours politiques, médiatiques et d'incidents xénophobes ou racistes causés notamment par les supporters de football.
L'Arménie et ses 3 millions d'habitants espèrent que la révolution de velours en avril et en mars dernier apportera un nouveau souffle à l'économie. Lutte contre la corruption, lien avec l'immense diaspora, 8 millions de personnes dans le monde entier. Le Premier ministre Nicole Pachignan envoie des signaux positifs aux jeunes Européens qui souhaiteraient venir s'installer en Arménie. Alors même si la réforme fiscale en cours suscite beaucoup de mécontentement, si la croissance annoncée de 4,3% pour cette année n'est pas très égale partagé. Certains ont sauté le pas il y a plusieurs mois déjà, comme ces deux jeunes Français, Valentin Mahou-Équignan et Elodie Gavrilov. Portrait croisé signé Constance Léon à Erevan.
Il y a 3 ans, après avoir terminé un contrat court à Paris, Valentin Mahou-Équignan décide d'un changement de vie. Le jeune homme de 26 ans d'origine arménienne part du jour au lendemain s'installer à Erevan. Il connaissait déjà la capitale arménienne, il y avait réalisé un premier stage de master et rêvait d'y retourner. En Arménie, diplômé d'un master sur les questions environnementales, il ne trouve pas d'emploi dans sa branche. Avec 3 autres associés, ils ouvrent leur propre bar dans l'une des rues les plus animées d'Erevan.
Donc c'est un peu aussi le problème de ma génération où au final on a envie de travailler dans des choses intéressantes, mais en même temps on n'a pas envie d'être forcément attaché. Enfin, je cherche pas du tout un CDI. Parce que pour moi, ça représente plus l'enfermement qu'autre chose. Bon, après, arrivé ici, donc j'ai travaillé un peu avec l'ambassade. C'était que des contrats courts, mais en contrat local. Donc c'était, on va dire, pas très stable. Et puis j'avais envie plus de participer en créant quelque chose au développement du pays, donc de l'Arménie. Je m'attendais à beaucoup plus de complications, parce que déjà en France, l'administration, c'est compliqué. Ensuite, en Arménie, on m'avait dit, tu vas voir, c'est compliqué, il y a plein de papiers. Plus, vous êtes pas arménien d'origine, enfin de locaux, entre guillemets. Donc, on va vous mettre des bâtons dans les roues, ça va être compliqué. Et puis au final, en une demi-journée, les statuts étaient faits. On s'était inscrit pour avoir la licence. Une semaine après, enfin tous les papiers étaient prêts. On a ouvert le compte avec 1000 drams, donc l'équivalent de 2 euros. En gros, c'est ce que ça nous a coûté d'ouvrir le bar.
Valentin Mahou-Équignan est désormais propriétaire d'un appartement acheté à crédit et du bar à Erevan. Il y a réalisé des travaux. Son bar attire une clientèle d'Arméniens locaux et de la diaspora, particulièrement pendant l'été. Malgré ce succès, il trouve toujours difficile de se sentir vraiment arménien.
C'est un peu paradoxal parce que d'un côté, beaucoup d'Arméniens locaux sont très contents qu'il y ait des Français, des Américains ou d'origine arménienne qui reviennent et qui développent. Donc il y a cette forme-là d'accueil, les gens sont plutôt ouverts et plutôt positifs envers nous. Mais en même temps, on sent quand même des fois cette sorte de jalousie. Enfin, on s'est déjà pris avec le bar des réflexions des voisins, notamment parce qu'on faisait trop de bruit en disant bah, « rentrez chez vous ». C'est pas votre pays au final, si vous êtes pas content, ben partez.
Les difficultés pour trouver un emploi qualifié dans sa branche en Arménie, Elodie Gavrilov ne les a pas rencontrées. À 26 ans, la jeune femme est arrivée directement de France pour enseigner l'histoire-géographie aux collégiens et aux lycéens de l'école française d'Arménie. L'école l'a aidée dans toutes ses démarches administratives. L'Arménie est aussi son terrain de recherche pour sa thèse qu'elle poursuit à distance.
Voilà, je fais partie de ces doctorants qui ont besoin de travailler pour se financer, même si ma thèse est en partie financée, elle l'est pas entièrement. Disons un moyen d'allier l'utile à l'indispensable et à l'agréable, parce que j'adore mon travail. Ça faisait tout son sens, notamment en termes de conditions de travail, parce que j'ai évidemment pas du tout les mêmes conditions de travail qu'en France. Mes élèves sont peu nombreux à l'intérieur des classes, le travail est donc beaucoup plus facile. On est une petite équipe, tout le monde se connaît, j'ai des conditions de travail qui sont quand même vraiment des conditions de rêve par rapport à certains collègues en France.
Élodie Gavrilov connaît bien la région. Elle était déjà venue enseigner en Arménie en 2014. Et puis, son père est arménien de Turquie. Enseigner le génocide arménien en Arménie a un sens particulier pour la jeune femme.
Ça a été d'autant plus émouvant qu'en 2015, quand j'étais là, c'était donc les 100e commémoration du génocide des Arméniens. Et on avait fait une conférence avec mes élèves, où c'est les élèves qui avaient parlé. Le contenu du cours sur le Moyen-Orient en terminale ne change pas forcément, mais effectivement, on va s'intéresser à des choses qui, de fait, touchent beaucoup plus mes élèves que c'était le cas en France. Et encore, par exemple, j'ai une de mes élèves qui est d'origine iranienne, ici. Et donc, c'est vrai que quand on parlait de l'Iran, elle avait toujours des choses à raconter sur voilà des choses que son papa lui avait racontées, que ses parents avaient vécues.
L'Arménie est un petit pays de la taille de la Belgique avec moins de 3 millions d'habitants. Il y a peu d'expatriés. Ce n'est pas toujours simple d'y trouver sa place. Élodie Gavrilov a décidé de poursuivre ses recherches à Istanbul, en Turquie. Valentin Maoui-Kignan, lui, cherche un emploi dans sa branche ailleurs qu'en France et en Arménie.
Dans les coups durs, je me dis pourquoi pas rentrer. Et puis après, c'est vrai qu'on a quand même, avec peu, en Arménie, une qualité de vie qui est vraiment très agréable. Et quand je rentre en France voir mes amis, etc., et que je vois que tout le monde vit dans 20 mètres carrés, que bon, à Paris, c'est sale, c'est pollué, il fait pas forcément beau. Bon, ici, on se pose un peu moins de questions, on peut sortir, si on est en retard on prend un taxi, on se pose pas la question de combien ça va coûter. Après, professionnellement, clairement, c'est pour ça qu'on a ouvert quelque chose aussi. Je pense que niveau carrière, dans le privé ou même dans le public en Arménie, c'est quand même assez bouché et il y a très peu d'opportunités de carrière, enfin de croissance à ce niveau-là. Et c'est un peu ma déception pour l'instant. Niveau professionnel ici.
En Arménie, les salaires restent globalement bas, environ 300 à 400 euros par mois pour un emploi qualifié, soit le prix du loyer d'un appartement en centre-ville. Une qualité de vie agréable à Erevan, à condition d'y gagner un salaire d'expatrié.
Athènes attire-t-elle aussi les jeunes européens? Pas pour l'emploi, hein. La Grèce reste championne du chômage des jeunes en Europe, mais pour sa créativité. Les jeunes artistes sont nombreux à choisir la capitale grecque pour s'installer. Un essor lié certainement à l'organisation de la Documenta en 2017. C'est l'une des expositions d'art contemporain les plus en vue au niveau mondial. Mais la ville a bien d'autres atouts, Charlotte Stievenard.
Au centre-ville d'Athènes, les espaces artistiques poussent comme des champignons ces dernières années. Danaï Yanoglou a créé Enterprise Project avec un ami en 2015. Elle explique que pour leurs premières expositions, ils imprimaient la plupart des textes en grec. Aujourd'hui, la moitié sont en anglais, car le milieu artistique athénien s'est ouvert. Beaucoup de jeunes artistes viennent de France, d'Angleterre, d'Allemagne ou encore de Suisse. Certains ont même décidé de s'installer ici, comme Eva Islaves, sculptrice et performeuse islandaise de 36 ans. Avec trois autres personnes de Suisse, de Grèce et de Grande-Bretagne, elle a créé l'espace Adash, car elle a senti qu'elle se trouvait au bon endroit, au bon moment. Une ville où la vie est peu chère et où la scène artistique, petite mais très dynamique, permet de se créer facilement un réseau. Elle explique aussi qu'à Athènes, où les grandes enseignes n'ont pas encore fait fermer les petits commerces, il est plus facile de trouver des matériaux comme des magasins qui vendent du cuir, des néons ou encore des petites imprimeries, le tout au coin de la rue. Mais ces aspects positifs ont aussi un revers, explique Maclean Kowal, directeur fondateur du Sub Rosa Space, qui présente le travail d'artistes grecs et internationaux. L'État est complètement absent de la création artistique contemporaine en Grèce, selon lui. Il explique que cela permet une grande liberté en termes de création, mais par ailleurs, même si le coût de la vie est bas, il n'y a pas d'argent, dit-il. Il aimerait par exemple une plus grande implication de la municipalité d'Athènes pour rendre la vie des artistes et des lieux artistiques pérennes et que la bouillonnante capitale grecque continue de créer et d'attirer les jeunes talents de toute l'Europe.
Il y a quelques mois, on évoquait le petit coup de mou sur la croissance européenne, mais au vu des dernières prévisions de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, on peut parler maintenant de gros coups de blues. Croissance chinoise au ralenti, conjoncture globale morose, le Brexit en Europe. Nous retrouvons pour faire le point Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
L'économie européenne est-elle vraiment en plein marasme, Daniel ?
Sur le plan de la croissance, c'est indéniable. Dans ses dernières perspectives, l'OCDE a révisé en très forte baisse ses prévisions concernant le PIB de la zone euro en 2019, en annonçant une hausse limitée à 1%. Il y a un an, l'organisation tablait pour cette année sur plus de 2% et la Commission européenne, en février dernier, espérait encore 1,3%.
Et Daniel, quels sont les pays les plus touchés ?
Ce sont des poids lourds européens. Dans la zone euro, il s'agit tout d'abord de l'Allemagne, à qui l'OCDE prédit qu'une croissance ramenée à seulement 0,7% en 2019, soit 3 fois moins que ce qui était anticipé il y a un an. Il y a aussi l'Italie qui devrait connaître une récession, avec un PIB en baisse de 0,2%. Ces deux pays, qui pèsent à eux seuls près de la moitié de la richesse nationale de la zone euro, sont devenus les lanternes rouges de la croissance européenne. Il faut leur adjoindre le Royaume-Uni, dont la croissance prévue en 2019 tombe à 0,8%. Trois grands pays donc à moins de 1% de croissance, alors qu'ils représentent la moitié du PIB de l'Union européenne.
Allemagne, Italie, Royaume-Uni, et pour la France, qu'en est-il ?
Pour la première fois depuis très longtemps, la croissance française devrait être à 1,3%, presque 2 fois plus rapide que la croissance allemande. Pourquoi cette différence ? Du fait du commerce international. Celui-ci s'est beaucoup ralenti durant l'année 2018 avec les incertitudes nées des menaces de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Du coup, les grands marchés émergents sont en baisse de régime, en particulier la Chine et la Russie. L'Allemagne est particulièrement touchée dans la mesure où son commerce extra-européen représente 16% de son PIB contre seulement 11% pour la France. De plus, l'Allemagne exporte des biens d'équipement lourds très sensibles à la conjoncture internationale. Pour en revenir à la France, son économie se trouve paradoxalement plutôt soutenue en 2019 par les conséquences de l'agitation sociale de l'automne et de l'hiver. Les manifestations de gilets jaunes ont provoqué une stagnation de la consommation au quatrième trimestre 2018, mais pour peu que les troubles se calment, celle-ci devrait rebondir au printemps, et ce d'autant plus que les améliorations de pouvoir d'achat arrachées au gouvernement vont se faire sentir.
Alors Daniel, est-ce qu'il y a des facteurs nationaux qui expliquent cette déprime économique ?
Bien sûr, outre-Manche, le feuilleton lancinant du Brexit or not Brexit plombe la confiance à la fois des consommateurs et des milieux d'affaires. En Allemagne, l'industrie automobile, toujours sous l'épée de Damoclès d'une hausse des droits de douane américains, n'en finit pas de se remettre de l'introduction de nouvelles normes anti-pollution. En Italie, où les taux d'intérêt refluent enfin depuis 4 mois, la politique économique du gouvernement populiste paralyse l'investissement des entreprises. Plus généralement, toute l'Europe de l'Ouest est frappée d'instabilité politique et sociale.
Toute l'Europe de l'Ouest, mais où ça en particulier ?
Dans tous les grands pays. Ne revenons pas sur le Brexit. En France, le pouvoir fait face à une très difficile sortie de la crise sociale et sa stratégie budgétaire risque d'être mise à mal par la nécessité de satisfaire de nombreuses revendications. En Allemagne, la successeur désignée d'Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, s'efforce de faire entendre sa voix et contribue, sans le vouloir a priori, à affaiblir la chancelière. En Italie, la politique anti-migratoire de la Ligue exacerbe les tensions. En Espagne, le gouvernement socialiste en sursis attend les élections générales du 28 avril, dont le dénouement est une grande inconnue. Même situation enfin en Belgique, où le gouvernement démissionnel de Charles Michel attend les élections du 26 mai, où il risque de se retrouver coincé entre les nationalistes flamands et les socialistes wallons.
Et puis Daniel, il y a des pays où tout de même ça ne va pas trop mal.
À l'ouest, outre l'Irlande dont l'expansion, même ralentie, reste au-dessus des 4%, quelques pays réussissent à conserver une croissance comprise entre 1,5 et 2%, comme l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas ou la Suède. Et puis, presque toutes les économies de l'Est européen connaissent une expansion de 3 à 4%. Malheureusement pour nous, l'ensemble de ces pays ne représente qu'un 1/12 de la richesse de l'Union.
Merci Daniel, à bientôt.
À bientôt Juliette.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous retrouvez sur notre site internet, podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. Et nous serons ici demain à la même heure.